Alors bonjour à tous et donc bienvenue. Ici on va parler d'une présentation générale des leçons d'arithmétique donc pour les zéros. Donc déjà, quelles sont les leçons? Donc les leçons c'est de 12 à 15, multiples, diviseurs, divisions euclidiennes, PGCD, égalité de Bezout, nombre premier, décomposition d'un nombre premier et puis congruence. Dans l'enseignement donc de spécialité, donc en fait les leçons vont surtout tourner hein, sur la terminale S spécialité. On pourra parler un petit peu d'autres notions, par exemple on fait du PGCD quand on fait de la réduction, de la simplification pardon, de fractions, de choses comme ça. Mais bon, essentiellement c'est le programme de terminale. L'enseignement de spécialité prend appui sur la résolution de problèmes. Cette approche permet une introduction motivée des notions mentionnées dans le programme. Alors, pourquoi ça c'est intéressant? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il est demandé au prof de faire? Il est demandé donc de proposer des problèmes et d'introduire les notions d'arithmétique via des problèmes. Il va falloir que vous tourniez, donc au moins que vous sachiez cela, d'accord? Et que vous tourniez un petit peu vos leçons afin de mettre en entrée des problèmes. Ensuite, vous allez donc donner les notions qui vont permettre de le résoudre. Et puis à la fin, comme ça, vous pourrez faire la résolution du problème. Voilà, donc les notions sont appelés par les problèmes. Pourquoi cela? Bah parce que souvent en arithmétique, les étudiants demandent bah, pourquoi, à quoi ça sert, quoi. Voilà. Donc c'est, on prend les devants en mettant le problème qui introduit les notions. L'étude des situations envisagées dans le cadre de cet enseignement conduit à un travail de modélisation et place l'élève en position de recherche. Alors, deux notions importantes, la modélisation et la recherche. Donc, modélisation, c'est-à-dire le passage d'un problème concret à sa formulation en problème mathématique. Et puis position de recherche, c'est-à-dire que a priori vous allez laisser donc les étudiants chercher par eux-mêmes sans leur donner de guide, etc. Donc ça, ce sont des types d'exercices assez particuliers qui ne sont pas guidés, d'accord? Donc c'est des problèmes ouverts, problèmes prise d'initiative, position de recherche, donc tout dans cet environnement-là. Les thèmes abordés sont particulièrement propices à l'utilisation d'outils informatiques, logiciels de calcul tableur et à la mise en œuvre d'algorithmes. Alors je vais vous dire juste après la différence. Le niveau d'approfondissement des notions est guidé par les besoins rencontrés dans la réduction des problèmes traités et aussi évidemment par le niveau de votre classe. Hein, d'accord? Dans une classe normale, vous n'allez pas faire beaucoup de choses difficiles, mais au niveau du CAPES, il va justement falloir, des euros, hein, falloir traiter surtout les problèmes intéressants, difficiles, donc aller regarder dans les problèmes d'approfondissement, problèmes ouverts et autres, de fin de chapitre et pas vraiment dans le début. Et les problèmes étudiés peuvent notamment être issus de la cryptographie ou relever directement des questions mathématiques, par exemple à propos des nombres premiers. Alors vous voyez, notion de cryptographie, c'est vraiment un problème du monde réel, c'est-à-dire comment crypter une information, donc comment la transmettre de l'un à l'autre sans qu'une troisième personne qui écoute puisse savoir les deux personnes se racontent. Ou sinon, problème à propos des nombres premiers. Donc là, cette fois-ci, ben, on a défini ce que c'était qu'un nombre premier, et puis on se demande si un nombre n'est pas premier, comment est-ce que je fais pour savoir si un nombre est premier ou pas? Si un nombre n'est pas premier, est-ce que je peux l'écrire comme produit de facteur premier, etc. D'accord? Donc, vous voyez, ce sont toujours via des questions, donc via la résolution de problèmes. Le problème, c'est de savoir comment crypter une information ou comment peut s'écrire un, comment tester si un nombre est premier ou pas. Ok? Alors, je fais tout de suite une distinction entre outils numériques et puis algorithmique programmation. Alors, c'est un petit peu plus large que le seul cadre d'ici, mais comme vous le savez, les nouveaux programmes vont faire énormément une grosse introduction sur l'algorithmique. Donc, je préfère un petit peu prendre du recul. Donc, en fait, il y a deux visions de l'informatique. Soit c'est un outil, soit c'est un objet d'étude. Qu'est-ce que ça veut dire un outil? Bah, ça veut dire, avant on avait du papier, après on a eu des livres, et puis maintenant on a l'outil informatique. Donc ça, c'est quand on vous dit, par exemple en mathématiques, utilisation de logiciels pour conjecturer, illustrer, représenter, modéliser et autres. Si je prends GeoGebra pour conjecturer, c'est très bien, mais j'aurais peut-être pu le faire avec une feuille de papier. Y a pas nécessité... enfin, l'outil informatique apporte quelque chose de plus, certes. Mais ce n'est qu'un outil. Ce qui m'intéresse, c'est de conjecturer que, par exemple, les bisectrices du triangle sont concurrentes. Et de l'autre côté, ça peut être l'informatique peut être lui-même un objet d'étude, c'est-à-dire un objet d'enseignement. Et c'est ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que pour l'instant, dans tous les programmes, juste avant les nouveaux, là, on vous parlait d'outils numériques, d'accord? Donc il y en avait en histoire géo, en français, etc. Il était le français, par exemple, l'outil numérique, ça va être le traitement de texte, ou ça peut être aussi du PowerPoint, des illustrations, de la vidéo, etc. pour traiter la discipline. Là maintenant, ça va être au prof de maths de faire passer donc l'informatique en tant que élément d'étude. Comme le programme de mathématiques, ben, il y aura un petit peu un programme d'informatique. Alors, c'est pas de l'informatique base de données, architecture de réseau ou des trucs comme ça va être la partie théorique de l'informatique, c'est-à-dire l'algorithmique. Voilà, donc j'espère que vous avez compris la différence entre la position outil dans l'informatique et la position objet d'étude. Rentre dans le programme de mathématiques bientôt, à partir de l'année prochaine, la production d'algorithmes. Donc, enfin, là c'est actuel, hein, production d'algorithmes pour résoudre un problème. Et après, ça va donc se renforcer. Je vous donne un petit exemple. C'est un algorithme bête, hein, c'est imaginer un distributeur automatique de parking, par exemple. Vous mettez des pièces, enfin, il faut payer, vous mettez un billet et la machine doit vous rendre la monnaie. Et elle, on va dire, il faut un algorithme qui en entrée prend la somme qu'elle doit vous rendre et puis en sortie, bah, le nombre minimum de pièces pour atteindre cette somme, d'accord? C'est pas forcément ce que la machine fait, peut-être qu'elle se débarrasse de là où elle a le plus de stock de pièces, mais on pourrait se dire, voilà, ça pourrait être intéressant de rendre le nombre minimum de pièces, étant donné ce qu'elle a dans sa base. Voilà, donc vous voyez, dans un exemple comme ça, le but c'est quoi? C'est de créer un algorithme qui va résoudre le problème, quelle que soit la somme en entrée. Donc il y a un changement de paradigme entre les maths et l'info ici. En mathématiques, on va se dire, ben voilà, il faut lui rendre 13,63 €, comment est-ce que je fais quand j'ai les pièces en euros, etc., pour rendre cette somme avec le nombre minimum de pièces. Là, ça va pas être ça va être, étant donné n'importe quelle somme, comment est-ce que je fais, étant donné les données de la machine, c'est-à-dire elle a 8 pièces de 1 centime, 15 pièces de 5 centimes, etc. Quel est l'algorithme pour vous rendre le plus petit nombre de pièces? Donc, il y a vraiment un changement de paradigme. Hein. En maths, on résout, et en informatique, on crée un programme qui va résoudre le problème à notre place. Ok, alors je reviens donc sur le programme. Et donc le programme d'arithmétique, puisque ce sont les slants d'arithmétique. Donc toujours en terminale S spécialité. En quoi consistent des exemples de problèmes? Donc des problèmes de codage, code barre, code ISBN, clé du RIB, code INSEE, des problèmes de chiffrement, chiffrement affine, chiffrement de Wigner, chiffrement de Hill. Questions sur les nombres premiers, infinitude, répartition, test, etc. Enfin bref, vous lisez. Et voilà. Donc vous savez, dans les programmes, il y a normalement trois colonnes, c'est-à-dire. Pour la terminale S, si vous regardez le BO, il faut le regarder. Hein, vous avez la première colonne, c'est les contenus. Par exemple, vous avez là, ce que j'ai devant moi, c'est intervalle de fluctuation. La deuxième colonne, c'est les capacités attendues, démontrer que, etc. Avec des petits symboles. Ah, il faut que vous fassiez très attention aux petits symboles dans le programme, d'accord? Quand il y a un carré entouré deux fois, enfin bref, ça c'est à savoir démontrer. Quand il y a un petit losange, c'est avec une application algorithmique, etc. À l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, il y avait aussi en italique, ça voulait dire quelque chose. Pas en italique, ça voulait dire autre chose. C'était par rapport au socle de compétences, etc. Première colonne contenu, deuxième colonne capacité attendue, troisième colonne commentaire. Pour le programme de spécialité, il n'y a que deux colonnes. Eh ben, on a perdu les commentaires. Il ne reste plus donc que la colonne. Exemple de pour l'arithmétique, exemple de problème et contenu. Et donc on se débrouille avec ça sans commentaire. Donc les exemples de problèmes, je vous les ai donnés. Donc les contenus qui vont avec, vous les avez là, divisibilité A dans Z, division euclidienne, congruence dans Z, etc. etc. D'accord? Donc là, j'ai exactement repris le programme de terminale S spécialité arithmétique. Alors, je voudrais revenir là-dessus sur le vocabulaire, parce que c'est bien de dire codage, chiffrement, etc., mais il faut que vous ayez un petit peu les idées claires là-dessus, enfin, même pas qu'un petit peu. Alors, regardez, si jamais je prends la définition du Larousse sur le codage, il dit « action de coder un texte, des données informatiques, chiffrement, encodage ». C'est très bien, c'est ce que je voudrais vous dire, c'est que les termes en informatique ou en mathématiques et en langue naturelle français n'ont pas la même signification. Quand je lis ça, ça ne marche pas, parce que le codage, c'est exactement l'inverse en fait du chiffrement. Donc j'ai pris le dictionnaire dit de l'informatique que j'ai trouvé sur le net, j'ai trouvé sa définition, ensemble des règles définissant une correspondance biunivoque entre les informations et leur représentation par des caractères, des symboles ou des éléments de signal. Alors, ce qui est important, c'est la correspondance biunivoque. Je vais donner un exemple tout simple, hein, d'accord? On a tous un numéro de sécurité sociale, c'est un codage. C'est-à-dire qu'on a codé un certain nombre d'informations sur, enfin, qui nous concernent, hein, d'accord? Notre 0, 1, c'est si on est homme-femme, notre année de naissance, notre lieu de naissance, l'année de naissance, enfin, etc., d'accord? Un certain nombre d'informations sur un numéro. Donc c'est bien une correspondance biunivoque, vaut mieux qu'on n'ait pas tous les deux, enfin que deux personnes aient le même numéro. Et donc ça code un certain nombre d'informations juste sur notre numéro de sécurité sociale. Voilà. Le chiffrement, c'est l'opération qui consiste à transformer un message, à transmettre dit message clair, en un autre message inintelligible pour un tiers, donc quelqu'un qui vous espionne, dit message chiffré. Donc vous voyez que là, c'est exactement l'inverse, puisque le codage, le but, c'est de représenter le mieux possible l'information initiale. Donc une fois qu'on a notre numéro de sécurité sociale, on sait, enfin, on peut retrouver si il correspond à un homme, une femme, quelle est son année de naissance, quel est son département de naissance, etc. Alors que le chiffrement, le but, c'est que quand vous avez les numéros, bah, vous ne savez pas du tout de quoi ça parle. Donc voilà, donc codage et chiffrement, c'est complètement différent. Donc là, vous voyez un exemple de terme en français qui n'a pas la même signification quand on passe donc en informatique. Donc voilà, écrit donc cryptographie, c'est juste pour vous dire, c'est la discipline qui s'attache à protéger les messages, c'est-à-dire donc c'est la science du chiffrement, si vous voulez. Donc quand on vous dit par exemple des exemples de codage ou des exemples de chiffrement, il faut bien comprendre que c'est deux logiques absolument différentes, d'accord? Les problèmes de codage, c'est donc comment représenter l'information au niveau informatique, mais en clair, hein, il n'y a pas de souci. Et le deuxième, ça peut être le chiffrement, c'est-à-dire comment transmettre l'information informatique, par exemple, de manière à ce qu'à l'arrivée, ils n'y comprennent rien. Donc le premier chiffrement, hein, pour vous donner un exemple, c'était le chiffrement de César, donc c'était pas de l'informatique, hein, ils écrivaient sur du papier, du papyrus ou du papier, enfin bref, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il faisait? C'était l'alphabet moins 3, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet, il les faisait reculer de 3 rangs. Et voilà, donc le texte n'avait aucun sens si vous ne connaissiez pas les clés de chiffrement qui étaient ajoute 3 à chaque lettre. D'accord? Donc A devient BCD, d'accord? Et voilà, donc vous décodez comme ça le message. Donc comme l'arithmétique est très liée à l'algorithmique, je voudrais aussi un petit peu faire le point sur qu'est-ce que c'est qu'un algorithme. Donc un algorithme, c'est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Ok, ce qui est très important, c'est que c'est une suite finie. Alors on en reparlera de cette notion-là, mais que c'est fini, d'accord, et non ambiguë, ça c'est bien. Mais donc il va falloir montrer dans vos programmes à la fois que le jeu d'instructions que vous avez permet de résoudre le problème ou d'obtenir le résultat que vous souhaitez. Ça, c'est le côté correction. L'algorithme est correct parce qu'il donne, il résout ce que vous souhaitez qu'il résolve. Et le fait qu'il soit fini, d'accord? C'est ce qu'on appelle la terminaison, c'est-à-dire que votre algorithme se termine bien. Donc il faut un test d'arrêt et vérifier que votre test d'arrêt marche à tous les coups. Pour un petit peu de culture, d'où ça vient le mot algorithme, vous le savez, c'est un mathématicien perse du nom de Al-Khwarizmi. Voilà, et donc Wikipédia nous dit qu'on retrouve des algorithmes un peu partout, dans la cryptographie, dans les ordinateurs, etc., etc., c'est super. Ok, dans les programmes, nous ce qui nous intéresse, donc là j'ai pris le programme de terminal S, et donc j'ai regardé ben, tout ce qu'il y a avec un losange devant. Donc on voit qu'au niveau des suites majorées, minorées, bornées, il est indiqué que des activités algorithmiques seront menées dans ce cadre, par exemple des approximations de pi, de e, du nombre d'or, etc. Donc vous voyez quel type d'algorithme on peut avoir. Au niveau du terme intermédiaire, ils nous disent que des activités algorithmiques sont réalisées dans le cadre de la recherche de solutions de f de x est égal à k. Bon, on va dire des solutions de f de x égale 0. Alors des activités algorithmiques, est-ce que c'est exactement des algorithmes? Pas exactement, parce que peut-être il n'y a pas forcément besoin de le formaliser. Peut-être vous n'allez pas utiliser un langage de programmation du type XCAS, etc., mais vous allez juste utiliser un tableur ou quelque chose comme ça, enfin je sais pas. Voilà. Mais ça va être quand même une démarche algorithmique, c'est-à-dire une succession d'étapes qui va vous mener vers un résultat, une succession finie d'étapes. Si on continue, donc après le TVI, il y a aussi conditionnement et indépendance, c'est-à-dire dans le chapitre des probas, où ils nous disent que des activités algorithmiques sont réalisées dans ce cadre, notamment pour simuler une marche aléatoire. Donc voilà pour l'aspect algorithmique. Alors maintenant, on va revenir à l'arithmétique, hein, c'est ce qui m'intéresse ici de vous présenter, avec le programme de spécialité, donc TS. Alors, qu'est-ce qu'on a à en retenir? On a à retenir qu'il faut faire de la résolution de problèmes. Pourquoi? Pour motiver les notions via des problèmes concrets, et donc l'aspect modélisation. Utiliser la modélisation avec mise en place donc, de l'élève en tant que chercheur, le faire chercher, que ce soit le faire chercher les solutions, des algorithmes, lui laisser peut-être la possibilité soit d'utiliser l'outil informatique, soit de chercher avec le papier, le crayon, etc. Et puis donc, c'est propice à l'utilisation d'outils informatiques et aussi à la mise en œuvre d'algorithmes. Donc j'espère cette fois-ci que vous avez compris la différence entre les deux. D'un côté, c'est l'outil informatique, donc c'est un outil. Et de l'autre, le but, c'est de produire un algorithme qui va résoudre le problème. D'un côté, c'est un outil et de l'autre, c'est le but. Ok, alors les notions. Les notions, donc mathématiques, là je passe en maths et ça y est, ouf. Alors, les notions, on peut les regrouper, mais il faut aussi savoir les distinguer. Donc je les regroupe comme ça. Multiples diviseurs, ça va ensemble. A est un multiple de B si B est un diviseur de A. Ok, division euclidienne dans N, dans Z, ça va ensemble, mais ce n'est pas vraiment la notion de multiple diviseur. A est un multiple de B s'il existe K tel que A est égal à K fois B. Alors, et après, il y a la division euclidienne, et après, on vous dit A est un multiple de B, si et seulement si le reste de l'addition euclidienne de A par B est nul. Mais on peut parler de multiples diviseurs sans parler de division euclidienne. Par exemple, dans les fonctions, il n'y a pas de division euclidienne et je peux dire que si f s'annule en 3, alors tout multiple de la fonction f s'annule en 3. C'est pas super intéressant, mais vous voyez que j'ai pas besoin de division euclidienne pour parler de multiples. Ok. La notion de congruence, qui est donc très liée à la notion de division euclidienne dans Z, attention, mais qui est un petit peu différente, donc je l'ai pas mise à la suite, d'accord? C'est très lié, mais bon, la congruence, je la place en numéro 3 ici, mais je pourrais la placer aussi en 4 ou en 5, puisque avec les PGC et nombres premiers entre eux, bezout, il y a des choses qui vont se passer en congruence, etc. Ce qui va ensemble, c'est PGCD, nombres premiers entre eux, bezout, c'est encore un package. Et puis dernier point, nombres premiers, décomposition d'un entier en produit de facteurs premiers. Mais encore une fois, il faut bien distinguer nombres premiers et puis PGCD, ou nombres premiers entre eux. On peut très bien avoir la notion de nombre premier entre eux sans avoir la notion de nombre premier. Comme on fait la réduction de fraction, on peut très bien dire il faut trouver A et B tels que A et B sont premiers entre eux et A sur B, enfin la fraction A sur B est égale à notre fraction, machin, sans parler de nombre premier, d'accord? Ou de décomposition nombre premier. Voilà. Et donc il faudra faire attention dans toutes ces leçons de bien distinguer naturel et relatif. C'est très glissant parce qu'il y a des fois où on considère que les nombres positifs, par exemple le nombre premier, on les pense vraiment surtout positifs, alors après on peut les étendre, d'accord? Mais il y a d'autres cas où on pense anti-relatif, d'accord? Donc il faudra bien que vous fassiez attention à ça quand vous rédigez vos leçons. Donc le but de cette petite diapo, c'est donc de voir qu'est-ce qui peut être mis ensemble et qu'est-ce qu'il faut savoir distinguer. D'accord? Encore une fois, si c'est pas sur la même ligne, c'est qu'il y a une vraie différence et essayer de comprendre à chaque fois laquelle c'est. Je reviens avant de terminer sur la notion des logarithmiques. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, donc quand on regarde, c'est le programme de spécialité. À la fin, toute fin, vous avez une partie sur l'algorithmique et une partie aussi sur la logique. Donc, regardez le BO sur le programme de terminal S. Et il vous dit, en seconde, les élèves ont reçu. On conçut et mis en œuvre pardon, quelques algorithmes. Et donc la formation se produit tout au long du cycle terminal. Je vous rappelle que le cycle terminal, c'est première terminale. Dans le cadre de cette activité algorithmique, les élèves sont entraînés à décrire certains des algorithmes en langage naturel ou dans un langage symbolique, et puis réaliser quelques-uns à l'aide d'un tableur ou d'un programme sur calculatrice ou d'un logiciel adapté. Ok. Alors, on nous dit qu'aucun langage ni aucun logiciel n'est imposé. L'algorithmique a une place naturelle dans tous les champs des mathématiques. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec quand il nous disait qu'il fallait le traiter avec le TVI, avec le comment ça s'appelle les suites numériques, avec aussi les probabilités. Et les problèmes posés doivent être en relation avec d'autres parties du programme, donc analyse, géométrie, statistique, proba, logique, mais aussi avec d'autres disciplines ou le traitement de problèmes concrets. Et enfin, à l'occasion de l'écriture d'algorithmes et de programmes, il convient de donner aux élèves les bonnes habitudes de rigueur et les entraîner aux pratiques systématiques des vérifications et de contrôle. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire par là? Les algorithmes, on n'est pas, donc c'est pas dans le programme d'imposer de les faire tourner sur un langage, par exemple Python, d'accord? Mais on va essayer de voir quand même quelques notions de correction d'algorithme, c'est-à-dire est-ce que votre algorithme marche bien, qu'il va un jour s'arrêter en donnant la bonne solution. Voilà, alors quand vous regardez le programme donc d'algorithmique, donc c'est la page 16 en fait du BO sur la terminale, ils vous disent donc. Instructions élémentaires, affectation, calcul, entrée-sortie. Les élèves, dans le cadre d'une résolution de problème, doivent être capables d'écrire une formule permettant un calcul, d'écrire un programme calculant et donnant la valeur d'une fonction, ainsi que l'instruction d'entrée et sortie nécessaire au traitement. Boucle itérateur, instruction conditionnelle. Et donc, dans le cadre de la résolution de problème, ils sont capables de programmer un calcul itératif. Le nombre d'itérations étant donné, ou de programmer une instruction conditionnelle, le calcul itératif, avec une boucle conditionnelle. Ok, on fait ça très très facilement, vous allez voir. Imaginez que je veuille faire une approximation de pi et que je procède par dichotomie, d'accord? À chaque fois, mon intervalle est donc divisé par 2. Et qu'est-ce que j'ai comme, par exemple, une instruction conditionnelle? Ça va être tant que la distance entre les deux bornes de l'intervalle est plus grande que 10 moins 6, faire, et puis je fais ma dichotomie, c'est-à-dire je calcule le point au milieu, je vois si f de ce point-là est positif ou négatif, et ainsi de suite. Donc voilà pour cette présentation, programme d'arithmétique, mais aussi, comme vous l'avez vu, de tout ce qui concerne l'algorithmique.